Les cours du Collège de France, Thierry Coquan, chaire informatique et sciences numériques.
Dans cette leçon, je vais présenter des modèles du principe d'univalence. Alors, dans la première partie du cours, donc théorie des types sans univalence, j'ai présenté la théorie des types et en suivant les idées de Martin Loff, dans cette théorie, tous les principes sont justifiés. Donc, si on prend l'exemple du principe d'induction, donc il y a des, on introduit des notions primitives, mais elles ont une structure qui a une structure de justification. Donc, par exemple, le principe d'induction, donc n est un type primitif, il a des constructeurs, donc des constantes primitives 0 et successeurs, et on a un principe d'élimination, donc qui permet de construire des fonctions sur ce type des entiers. De cette manière-là, donc c'est le principe, les lois de calcul pour les fonctions primitives récursives, telles qu'elles étaient formulées par Hilbert dans les années 1920, avec les lois de calcul, ces lois de calcul. Et ces lois de calcul peuvent être vues comme une justification du principe d'élimination. Et les calculs sont effectués dans un langage de programmation fonctionnelle, qui est un lambda calcul donc étendu avec constructeur et définition récursive de fonctions définies par K. Donc le cas général de principe de type de données et de définition de fonctions, donc c'est sur le type de données des arbres qu'on a vu pour justifier donc les ensembles en théorie des types, ce type W introduit par Martin Loff en suivant les idées de Peter Axel. Donc il a un constructeur qui permet de construire des arbres à branchement arbitraire et le principe de définition de fonction, donc c'est, on définit une fonction alpha qui est définie de manière récursive par k sur l'élément de W de AB. Alors cette analyse est inspirée dans des travaux de Ganson en théorie de la démonstration qui a mis en évidence donc une dualité entre les lois d'introduction, donc représentées dans le langage de programmation fonctionnelle par des constructeurs, et les lois d'élimination, qui sont représentées dans le langage fonctionnel par des fonctions définies par K, qui peuvent être définies de manière récursive. Et ces lois d'élimination donc, sont justifiées par ces lois de calcul. Et en suivant ces principes, de cette idée de dualité, c'est comme ça qu'on peut montrer donc, la normalisation, canonicité et décidabilité du type H. Donc ça, c'est à comparer ce système justifié, donc à comparer avec la théorie des ensembles qui était présentée de manière purement axiomatique par Zermelo. Et en fait, donc, comme on a vu dans une leçon précédente, le modèle, on peut en fait, utiliser la théorie des types pour justifier quelques axiomes de la théorie des ensembles. Le modèle de Peter Axel donc fournit une explication de certains de ces axiomes en représentant les ensembles par des arbres et l'égalité par une relation de bisimulation. Donc la question que je voudrais analyser dans cette leçon, c'est est-ce qu'on peut justifier le principe d'univalence comme présenté dans la leçon précédente. Donc le donc est-ce qu'on a une justification de ce principe d'univalence? Donc Martin Loff, quand il a introduit l'égalité, donc cette égalité était introduite aussi en suivant ses principes d'introduction et d'élimination, et l'égalité était introduite par un principe de donc d'introduction qui était qu'on avait cette règle d'introduction, donc la réflexivité et la règle d'élimination était justifiée par ce principe en suivant les idées de Ganson. Mais cette justification inductive de l'égalité ne justifie pas le principe d'univalence. En fait, il ne justifie pas le principe d'extensionnalité. Et pour voir qu'il ne justifie pas le principe d'univalence, c'est que par univalence, donc quand on regarde ce qui se passe pour l'égalité dans un univers, Donc cette égalité doit correspondre à l'équivalence, et il peut y avoir plusieurs preuves d'équivalence entre un type et lui-même. Donc par exemple pour le type des booléens, la fonction non constante, bien un isomorphisme non constant de boule dans boule, qui correspond à une preuve d'égalité de boule avec lui-même, qui n'est pas constante. Donc la justification inductive de l'égalité par Martin-Löf ne peut être utilisée pour justifier le principe d'univalence. De l'autre côté, donc, on ne veut pas rajouter le principe d'univalence au axiome, parce qu'on perd donc, le résultat de canonicité, et on perd en fait principe général de justification des lois en théorie des types. Donc un essai pour justifier le principe d'univalence, qui est un principe d'extensionnalité, pourrait être de suivre donc, les idées de Gandhi, Robin Gandhi, et de Takiotti, qui, pour la théorie des types simples, donc ça c'était des travaux en 1953, pour la théorie des types simples, donc, justifie l'extensionnalité en construisant un modèle de la théorie des types simples avec extensionnalité à partir d'un modèle donné de la théorie des types simples. Alors pour l'univalence, donc, ce que je vais présenter, ça peut être vu comme un raffinement de cette idée, mais en fait donc, ce qui se passe pour l'univalence, c'est qu'il y a une citation nouvelle. C'est-à-dire que pour ce modèle-là, en fait, ce modèle, l'axiome d'extensionnalité, est formulé comme une proposition. Donc, on ne veut pas analyser dans cette approche. On n'analyse pas en fait la preuve de l'axiome d'extensionnalité. Pour l'univalence est formulée comme un type. Et en fait, il y a un phénomène de circularité. L'axiome d'univalence, en quelque sorte, est lui-même univalent. Donc il y a une nouvelle situation de circularité dans cette justification. Et donc ce sera plus subtil que le modèle de Robin Gandhi et de Cacciotti. Mais c'est essentiellement la même idée. Donc on va partir d'un modèle donné et on va se restreindre à des types qui vérifient le principe d'extensionnalité. Et en fait, donc pour construire ce modèle, on va... Donc on va suivre l'idée suivante, c'est un essai naturel pour justifier ce principe, donc et de partir d'un modèle de cet axiome, qui est le modèle donc, mis au point par Wovowski, qui est le modèle des ensembles simpliciaux, qui est présenté donc, dans le papier de Chris Kapulkin et de Peter Lomsdale. Alors, comme on va le voir, ce modèle n'est pas constructif, donc cette leçon, ça va être une analyse assez détaillée. Où est-ce que ce modèle n'est pas constructif? Mais en fait, on peut construire des variations de ce modèle qui sont effectives et qui donc peut être vues comme une justification constructive du principe d'univalence. Alors, donc la non-constructivité du modèle simplicial est assez subtile. Donc, avec la définition usuelle de la condition de Kahn, donc le modèle de Wovowski, c'est on va se restreindre à des ensembles simpliciaux qui vérifient la condition de Kahn. Donc si on suit la définition usuelle, on ne peut pas montrer même l'existence de l'exponentielle de manière constructive. Donc non seulement le produit dépendant, mais même l'exponentielle de deux types qui vérifie la condition de Kahn, avec la définition de Kahn, n'est pas constructive. Mais il y a une autre définition donc, qui est classiquement équivalente de cette condition, qui dit en gros que toute boîte ouverte peut être remplie. Et avec cette condition, donc qui est classiquement équivalente, on peut justifier l'existence de l'exponentielle et en fait justifier l'existence des produits dépendants, des sommes dépendantes, de l'égalité. Mais avec cette définition, il y a un problème constructif pour construire des univers. Et en fait, pour construire les univers, on a besoin de l'autre définition de Kahn. Donc, alors, l'existence de l'exponentielle donc, a été remarquée dans les années 50, donc dans les notes de John Moore. Et son argument donc, est repris dans Henri Cartan, dans le séminaire Cartan, en fait, dans ce papier-là, et dans le livre donc, de Peter May de 1967. Mais la preuve originelle donc, de l'exponentielle n'est pas celle qui se trouve dans les travaux plus récents sur les ensembles simpliciaux. Alors, Donc pourquoi il est intéressant d'avoir un modèle effectif de l'univalence? Donc je voulais donner donc une application possible. Donc une application possible de ces modèles d'univalence, c'est qu'on peut suivre la preuve de Serre. Donc les groupes d'homotopie des sphères sont de présentation finie, et l'écrire en théorie des types. Et donc en fait, ceci a été fait de manière indépendante, donc par David Verne et Red Barton, donc qui peuvent suivre l'argument de Serre et montrer que chaque groupe Pn de Sm est de présentation finie. Alors si on a un modèle constructif de l'univalence et des types inductifs d'ordre supérieur, on peut suivre cette preuve et en fait calculer, donc en théorie, en suivant la preuve, on peut calculer pour n et m données une présentation de Pn de Sm. Donc ça, c'est une utilisation possible, concrète, d'une justification effective des modèles de l'univalence. Et cette question a été, en fait, une question similaire, donc, est discutée par Kreisel dans les années 50. Donc il rapporte que Jean-Pierre Serre lui avait demandé, en fait, dans sa preuve de Pn de Sm et de présentation finie, Jean-Pierre Serre utilisait l'axiome du choix, et il avait demandé à Georges Kreisel, qui était donc un logicien, est-ce que l'utilisation de l'axiome du choix est essentielle pour cet argument. Et Georges Kreisel suggérait pour cela donc d'utiliser le modèle des ensembles constructibles, qui interprète l'axiome du choix, donc le modèle de Gödel. Et de cette manière-là, on pouvait éviter, on savait a priori qu'en partant de la preuve de Serre qui utilisait l'axiome du choix, on avait aussi une preuve dans la théorie des ensembles sans axiome du choix que Pn de Sm était de présentation finie. Mais ici, donc, cette analyse va donner plus. Elle va donner non seulement qu'on a une preuve sans axiome du choix, mais on a une preuve constructive et en fait une preuve dans une métathéorie qui est assez faible, donc plus faible que l'arithmétique du second ordre. Donc, une autre application de ces modèles constructif que je vais présenter, c'est de montrer que l'univalence donc, n'augmente pas la force logique de la théorie des types. Donc ça, c'est une question qu'on pouvait se demander. On sait que la théorie des types donc de Martin Lof avec une hiérarchie d'univers est un système qui est plus faible que l'arithmétique du second ordre. Donc ça a été donné par une analyse donc, détaillée de Peter Axel qui a montré, et puis après Pfefferman en fait, qui ont montré qui ont pu déterminer la force logique exacte de cette théorie des types. Et en fait, donc, ce que montre ce modèle constructif, c'est que l'ajout du principe d'univalence n'augmente pas la force logique. Et aussi, donc, une autre application, c'est qu'on obtient une justification donc, du principe de description définie, ou l'axiome du choix unique, dans une métathéorie faible. Alors, qu'est-ce que le modèle simplicial? Donc, le modèle simplicial, c'est un modèle de préfaisseau. Donc, il est construit à partir d'un modèle de préfaisseau sur la catégorie delta. Donc, la catégorie delta, c'est quelle est cette catégorie? Donc, les objets, c'est les ordres finis linéaires non vides. Donc, n, ça va être l'ordre. Cet ordre linéaire, fini non vide. Et les morphismes, donc de M dans M, sont les applications qui sont croissantes, donc au sens large. Donc ça définit une catégorie delta. Et donc on a vu qu'à partir de chaque fois qu'on a une catégorie, on peut considérer le modèle des préfaisseaux sur cette catégorie-là. Donc ça, une remarque sur ce modèle-là. C'est que donc il a été introduit par Eilenberg et Zilberg, ce modèle de préfaisseau des ensembles simpliciaux, donc dans ce papier-là, donc en 1950. Et là, l'intuition, c'est une intuition spatiale. Donc on va représenter des objets de l'intuition spatiale en utilisant des modèles de préfaisseau. Donc il est intéressant de remarquer donc que de manière complètement indépendante. Donc des modèles aussi de préfaisseaux, et en fait sur des ordres, ont été considérés donc en logique pour donner des modèles de la logique intuitionniste. donc de manière complètement indépendante des travaux qui étaient faits par un mathématicien donc, en topologie algébrique. Donc d'abord par Beth, donc, qui a présenté non seulement des modèles de pré-faisceaux, mais aussi des modèles de faisceaux, avec une topologie, donc un précurseur de la notion de topologie de Grothendieck. Et ensuite donc, par Kripke. Donc les modèles de Kripke sont des modèles de pré-faisceaux. Et là, l'intuition est temporelle. Donc en fait, on veut capturer donc, les états de connaissance d'un mathématicien qui grandit avec le temps. Et donc c'est pour ça que les logiciens ont introduit aussi des modèles de pré-faisceaux. Et donc, comme on l'a vu dans les leçons précédentes, donc on peut représenter ces intuitions spatiales et temporelles pour construire des modèles de la théorie des types. Alors, donc, une intuition possible donc, pour un pré-faisceau sur cette catégorie-là est qu'en fait, donc, on a pour chaque forme n, donc on pense à n comme une forme possible. Donc, 0, c'est la forme des points. Et gamma de 0, donc si gamma est un préfaisceau sur cette catégorie, gamma de 0 va être un ensemble de points. Gamma de 1 va être un ensemble de lignes. Et donc si on a une ligne dans gamma de 1, et donc on a deux morphismes de 0 dans 1, donc les morphismes 0 et 1, et donc on peut appliquer la fonction de restriction. Donc, les fonctions de restriction correspondantes, on obtient deux fonctions de restriction de gamma de 1, de gamma de 0. Donc, il y a gamma associe gamma 0 et gamma 1. Et donc, l'intuition qu'on a, c'est que gamma est comme une ligne qui relie le point gamma 0 au point gamma 1. Donc, en général, je rappelle que je note donc si f est un morphisme de n dans m, je note de la manière suivante donc la flèche de restriction. Donc 1, ça va être la forme des lignes, et 2, ça va être la forme des triangles. Donc gamma représente donc un objet spatial qui a des points, des lignes, des triangles, et les flèches de restriction donnent les connexions différentes entre ces formes différentes. Alors de même, donc pour le modèle de théorie des types, donc si A est un type dans type de gamma, donc dans ce modèle-là, donc on aura pour si A est dans type de gamma, gamma est un préfaisceau, donc A est donné par un ensemble de une collection d'ensemble, donc A de n rho, pour n donc une forme, et rho un objet de l'ensemble gamma de n. Et on a les flèches de restriction que je note de la même manière. Donc UF. Donc A maintenant, donc on a un ajout spatial donc à l'idée des objets de la théorie des types. Donc, au lieu de penser à la théorie des types comme des points, des objets, on aura maintenant les éléments de ce modèle-là vont être des objets qui représentent des objets donc spatiaux qui peuvent être des points, des lignes ou des triangles. Donc, si gamma est dans gamma de 1, on peut penser à cet ensemble comme un ensemble de lignes. Et si U est dans cet ensemble-là, U est une ligne de source U0 et de but U1. Alors, donc, ce qui est un peu surprenant dans ce modèle-là, donc, c'était la contribution de Heisenberg et Zilberg, c'est ces éléments qui sont appelés donc, éléments dégénérés. Donc en fait, on a aussi donc, l'application constante de 1 dans 0. Donc si A est un point dans gamma de 0, alors AR est une ligne dans gamma de 1. Et donc c'est la ligne constante qui lie le point A à lui-même. Donc un élément dans gamma de n qui est de la forme US, pour U dans gamma m, avec m strictement plus petit que n et s une fonction surjective, est appelé un élément dégénéré. Donc, en général, et c'est ça qui est l'essence du caractère non constructif donc du modèle simplicial, c'est qu'on ne peut pas décider si un élément est dégénéré ou non. Donc, dans une logique classique, bien sûr, on a la disjonction, on peut décider si un élément est dégénéré ou non, mais de manière constructive, en général, donc c'est très simple de construire des préfaisceaux tels que la notion d'être dégénéré ou non n'est pas constructive, n'est pas décidable. Donc classiquement, en fait, on a un lemme de Heilenberg-Silberg qui dit que tout élément, tout objet géométrique, donc dans gamma de n, peut s'écrire de manière unique de la forme US avec U, un élément non dégénéré. Donc l'existence est assez simple, de manière classique, et l'unicité est un lemme qui se trouve formulé par Heilenberg-Silberg. Donc ce principe-là, cette écriture unique d'un élément, ne va pas être accessible dans une métathéorie constructive. Et donc ce fait-là est tout à fait similaire. Donc la notion de support dans la théorie des ensembles nominaux, donc on a l'existence d'un support d'un élément nominal, donc qui est un ensemble fini. Si on a un élément d'un ensemble nominal, donc cet élément va dépendre de nom, et en fait, de manière classique, il y a un ensemble fini unique, tel que cet élément dépend exactement de ces noms-là. Et c'est un résultat qui est vrai seulement dans une métathéorie classique. Et c'est tout à fait similaire à ce résultat d'Heilenberg et Silberg. Alors, on peut suivre la construction du modèle des préfaisceaux en général, dans ce cas particulier-là. Donc un contexte va être interprété par... Donc on suppose donner dans la théorie des ensembles, métathéorie des ensembles constructive, non, qui en fait n'est pas à être la théorie des ensembles, qui peut être une théorie des types telle que Newperl. Donc on suppose qu'on a une hiérarchie d'univers, U0, U1, Uoméga, et un contexte, donc va être un préfaisceau sur cette catégorie delta qui est U oméga petit. Donc c'est une famille d'ensembles avec des flèches de restriction qui vérifient les lois usuelles de préfaisceaux. Alors dans cette leçon, donc je vais vraiment utiliser donc le lemme de Yoneda. Donc je vais identifier un objet X de cette catégorie avec Yoneda de X, et je vais identifier gamma de X avec X flèche oméga, X flèche gamma. Alors, une substitution sera interprétée par une transformation naturelle, et un type A sur gamma va être donné par une famille d'ensembles, donc AX rho, comme je l'avais dit, pour rho X dans gamma, qui sont U oméga petit avec des flèches de restriction. Et un élément de A, c'est une famille d'éléments, donc c'est une section de cette famille. Donc c'est une famille d'éléments A de X rho qui vérifie cette égalité-là, pour toute flèche. Et donc, comme dans tout modèle de préfaisceau, donc on a un univers UI qui va correspondre à l'univers donné dans la métathéorie. Donc, pour chaque univers UI, je vais construire dans la théorie des types donc un univers UI. Et cet univers est défini de la manière suivante. Donc, UI est un type dans gamma, et UX de X rho va être défini comme l'ensemble des familles UI petites. A de YF avec des flèches de restriction définies de cette manière-là. Et donc si B est un élément du type UI dans gamma, on peut associer un type TI de B dans le type de gamma, donc le décodage. On pense à B comme un code pour un type, et TI de B le décodage, et on peut définir donc ce type TI de B de X rho va être défini comme l'ensemble suivant, donc B de X rho. Donc B de X rho, ça va être un élément de UI de X rho, donc c'est un ensemble de familles, et on applique cette famille à X identité. Et donc en utilisant que B est un élément de ce type-là, on peut vérifier cette égalité-là. Donc B de Y rho F est égal à la restriction de B de X rho par F. Et donc on peut vérifier cette égalité, ce qui permet de définir la flèche de restriction. Et donc on obtient bien un type, on obtient bien un type dans le contexte gamma. Alors, donc, le point sur lequel je veux insister, c'est que quand on décrit donc, ce modèle des préfaisceaux, tout est absolument effectif et tout est complètement élémentaire. Donc, par exemple, on vérifie des égalités et il n'y a pas du tout de problème de cohérence pour vérifier qu'on a un modèle de la théorie des types. Alors, voici comment définir le type des chemins dans ce modèle-là. Donc, on a deux transformations naturelles, donc epsilon 0 et epsilon 1, donc qui correspondent aux deux points de 1, de cet objet-là. Donc, on va pouvoir définir, si A et B sont des éléments du type A, on peut définir A égale B, donc ça doit être un type dans gamma. Donc, ce qu'on doit définir, c'est une famille d'ensemble. Et on va définir donc A égale B à X rho. Donc c'est l'ensemble des éléments oméga dans cet ensemble-là qui vérifie oméga epsilon 0 égale A rho et oméga epsilon 1 égale B rho. Donc là, on peut vérifier que on a les flèches. Donc la flèche epsilon 0 est telle que si on compose avec pi 1, donc on obtient l'identité, et donc on peut vérifier que cette égalité-là a du sens. Donc oméga, comme oméga est un élément de x croix 1, donc a rho pi 1, on vérifie donc oméga epsilon 0, eh bien non, est un élément dans x a rho pi 1 epsilon 0, et ça c'est l'identité, donc c'est bien ln de x a rho, et a rho, l'élément a rho est bien dans ln x a rho, comme rho est une flèche de x dans gamma. Donc c'est bien des éléments qui sont dans le même ensemble, on demande qu'ils sont égaux. Et intuitivement, donc oméga est un chemin, donc un chemin de source A rho et de but B rho. Et on peut définir donc refle de A, qui va être un élément de ce type-là. Et comment sera défini refle de A? Donc on doit définir une famille d'éléments, et on définit refle de A au niveau X rho comme étant A rho pi 1. Donc A rho pi 1 est bien dans le... Dans cet ensemble-là, et il vérifie les égalités voulues. Alors, donc ça définit dans ce modèle des préfaisceaux sur delta, donc on a une interprétation de l'égalité. Et en fait, donc on peut vérifier aussi que si on regarde on a un modèle de la théorie des types, donc on a un modèle de les sigma et pi, et si on regarde ce type SA, donc déjà à ce niveau-là, on peut voir que ce type contient l'élément A ref de A, et en fait on peut construire dans ce modèle un chemin de A ref de A sur un élément quelconque X oméga de SA. Donc la preuve géométriquement, donc elle correspond au diagramme suivant, donc c'est que on a l'objet constant, le chemin constant de A dans A. Quel chemin suivant? On a un chemin de A dans X qui est oméga. Et en fait, donc en suivant l'intuition géométrique, donc ça c'est oméga de J, oméga de I. Et en fait, on peut remplir ce carré avec oméga de I et J. D'accord? Donc ça c'est l'intuition qu'on a en termes d'espace topologique. Et on peut suivre cette intuition topologique, donc qui construit un chemin du chemin constant AA dans le chemin AX, cette intuition-là se traduit directement de manière complètement élémentaire dans ce modèle de préfaisceau. Donc là, on a vérifié donc un des axiomes de l'égalité, qui est que dans ce type-là, l'élément AREF de A est égal à un chemin sur un élément quelconque. Alors, donc pour formuler la propriété de Cannes. Je dois introduire donc la notion de cofibration pour avoir un modèle constructif. Donc je rappelle d'abord que donc dans le modèle de Préfesseau, il y a toujours l'objet donc des valeurs de vérité, qui est l'objet oméga, qui va être défini de la manière suivante. Donc oméga de x est l'ensemble des cribles sur x. Et un crible de x, donc c'est un ensemble de flèches de codomaine x qui est clos par composition. Et alors on peut vérifier que oméga peut être pensé comme l'objet des valeurs de vérité de ce modèle de Préfesseau. Alors pour un modèle constructif, on aura besoin de se limiter à des cribles décidables. Donc je vais introduire un objet phi, un Préfesseau phi qui va être un sous-Préfesseau de oméga. Donc pour chaque x, phi de x va être un sous-ensemble, donc un ensemble de cribles, et qui vérifie donc ce diagramme-là est un diagramme de pullback produit fibré. Et phi ne va contenir que des cribles décidables. Donc en fait, pour cet exposé-là, on peut prendre pour phi de x l'ensemble des cribles décidables de x. Et alors, géométriquement, donc un objet de phi de x, ou de, donc un objet de oméga de x en général, ça va correspondre à prendre une partie d'un objet géométrique. D'accord. Et là, en se restreignant, en ayant phi de n, l'ensemble des cribles décidables, on va se restreindre à des parties qui sont bien définies, qui sont définies de manière constructive. Alors en fait, on peut écrire donc les conditions techniques que doit vérifier ce sous-objet phi de oméga, et de manière intéressante, donc on retrouve en fait une notion qui était mise au point par Pino Rossellini donc dans modèle de réalisabilité, qui est la notion de dominance. Donc phi doit en fait être une dominance. Donc tout isomorphisme, donc on appelle cofibration, est une flèche qui est classifiée par phi. Les cofibrations donc, doivent contenir les isomorphismes et doivent être closes par composition. Et ça, c'est vérifié donc, si on prend pour phi de x l'ensemble des cribles décidables de x. Donc en particulier, donc, si gamma est un Préfesseau quelconque, donc se donner un sous-objet de gamma décidable intuitivement, donc revient à se donner une flèche de gamma dans phi. Donc si psi est une flèche de gamma dans phi, on pourra considérer le sous-objet de gamma qui est classifié par psi. Et donc en particulier, donc j'ai un sous-objet particulier de n qui est noté donc delta k de n qui est géométriquement qui est un cornet qui va correspondre donc à une flèche de n dans phi et je vais le noter aussi delta k de n. Et je vais demander, donc une condition, c'est que cet objet-là doit être dans phi, donc ce qui est vérifié si phi est un crible décidable. Alors, donc je vais introduire les notations suivantes, donc je l'ai déjà introduite ici. Donc la restriction de gamma à psi va être notée de la manière suivante. Donc c'est le sous-objet de gamma qui est défini par psi. Donc gamma à psi de x, c'est le sous-ensemble des rho, dans gamma de x, tel que psi rho est le crible total. Et on a une flèche de... Donc on peut vérifier que ça définit un Préfesseau. Et on note, c'est un Préfesseau qui est un sous-Préfesseau de gamma, et on va noter de cette manière-là la flèche d'injection. Et un type partiel, donc maintenant c'est des définitions essentielles pour le modèle que je vais décrire. Donc c'est la notion de partialité. Donc un type partiel sur gamma détendu psi. Donc c'est un élément de cet ensemble-là. C'est donc une famille d'ensembles A de X rho qui se restreint au rho qui vérifie psi. Et un élément partiel de A, d'étendue ψ, va être un élément de cet ensemble-là. Donc c'est une famille d'éléments A de x rho, mais je vais restreindre au rho dans gamma de x qui vérifie ψ. Donc ça correspond à l'intuition géométrique, c'est qu'on a une... donc je vais avoir un type A doit être pensé comme un objet géométrique, et je vais me restreindre. Ψ détermine une partie de A. Donc cas particulier, donc c'est si j'ai un carré A, un type qui représente un carré, je peux me restreindre aux côtés de ce carré-là. Alors, ce que je peux introduire aussi, c'est le type donc, des éléments partiels de A. Donc ça, ça va être une définition que je peux introduire. On peut faire en fait dans un modèle de préfaisceau quelconque. Donc A tilde A, donc en utilisant les notations de la théorie des types. Donc c'est l'ensemble des... comme ça. Donc si je note comme ça les éléments partiels de A d'étendue ψ, donc je peux introduire l'ensemble des éléments partiels de A, si A est un type donné. Donc techniquement, donc de manière précise, donc A tilde A de x rho, ça va être l'ensemble des couples phi A avec phi dans phi de x et A un élément partiel dans A rho d'étendue phi. Alors on a une transformation naturelle état de A dans A tilde A. Donc il y a tout élément A associe en fait l'élément total, donc d'étendue totale top, et qui est constamment, qui est cette famille partielle d'éléments-là. Et on a aussi, on a le diagramme suivant, ce type des éléments partiels pour ce type des éléments partiels, A tilde A. Donc en fait on a une injection, la flèche état est une injection de A dans A tilde A, et cette flèche état est en fait classifiée par la projection de A tilde A dans phi. Donc état est une cofibration. Donc on a intuitivement donc tout élément de A définit un élément partiel qui est en fait un élément total. Alors donc maintenant je peux décrire donc la condition de Kahn telle qu'elle était formulée dans le papier de Kahn de 1958, qui est une propriété. Donc c'est le diagramme suivant. Donc c'est une propriété d'extension d'éléments partiels en fait. Donc c'est la propriété en termes de diagramme. Donc dans le modèle de préfaisceau, donc si A est un type, j'ai cette flèche de projection là. Et la condition de Kahn, telle que formulée dans ce papier-là, c'est que si je considère ce sous-objet de n, alors pour tout rho de n dans gamma, tout élément partiel d'étendu delta k de n peut être étendu s'étend un élément total. Donc c'est ce diagramme-là. Donc c'est une propriété de A, donc si rho est de n en gamma, tout élément partiel détendu là admet une extension totale. Donc je vais noter isfib de gamma A, donc c'est la propriété que cette flèche là est une fibration au sens de Kahn. Donc ça c'est une proposition. Alors donc la remarque donc, qui est importante, c'est qu'avec cette définition, donc, il n'est pas possible de montrer les propriétés voulues dans une métathéorie constructive. Donc ça, ça a été fait dans ces deux papiers-là. Donc on a construit des modèles de Kripke qui montrent que les propriétés qu'on s'attend des ensembles de Kahn ne sont pas vérifiées. Donc en particulier, l'existence d'exponentielles avec cette définition n'est pas possible dans une métathéorie constructive. Donc une propriété plus faible qu'on pas plus faible, mais une propriété aussi qu'on s'attend pour cette notion de fibration est la propriété suivante. Donc c'est que si A est une fibration de Kahn en ce sens-là, donc si on a un chemin dans gamma, il doit être possible de relever donc, ce chemin en une équivalence de A de 0 dans A de gamma de 1. Et en particulier, il doit être possible de construire une flèche de A gamma 0 dans A gamma de 1. Et donc ça a été le premier travail qu'on a fait dans ce papier-là. Donc on a montré que ce relèvement des chemins en fait n'est pas valable de manière constructive. Et en fait, donc, quand on essaye de construire, on essaie de suivre la preuve de ce relèvement de chemin. Donc c'est possible de relever au niveau des points. Donc là, il n'y a pas de problème. On peut relever en utilisant cette condition de Kahn, on peut relever tout chemin au niveau de points. Mais le problème va être de relever si on a un chemin dans cette fibre-là de A0 dans B0, il doit être possible, si on veut définir donc une fonction au sens de l'ensemble simplicial, cette fonction-là doit préserver aussi, doit envoyer les lignes sur les lignes et envoyer une ligne qui est dégénérée sur une ligne dégénérée. Et c'est là qu'il y a un problème. Donc si on regarde comment se construit la flèche qui envoie une ligne sur une ligne en relevant ce chemin-là, en fait, cette construction-là est faite par K sur est-ce que A0, est-ce que cette flèche-là est dégénérée ou pas. Donc si cette flèche est dégénérée, on l'envoie sur la flèche dégénérée, le chemin constant. Et si la flèche n'est pas dégénérée, donc on l'envoie, on construit ce chemin-là de manière en relevant des triangles au départ. Donc c'est une construction qui se fait par K et qui ne peut pas être faite de manière constructive, comme on a montré dans ce papier. Et de même, donc, la construction de l'exponentielle, telle qu'elle est décrite dans ces papiers-là, se fait par K si un élément est dégénéré ou pas. Et, une telle distinction de K, donc un élément est dégénéré ou pas, est en fait déjà présente dans la thèse de Jean-Pierre Serre, donc dans un cadre tout à fait différent. Donc Jean-Pierre Serre n'utilisait pas les ensembles simpliciaux, mais il fait aussi des constructions par K sur est-ce que cet élément-là est dégénéré ou pas. Donc ça, comme on a l'a montré dans ces papiers-là, donc c'est le résultat lui-même n'est pas valable dans une métathéorie constructive. Il y a des contre-exemples où le résultat n'est pas valable. Et modèle de Kripke. Donc un aspect intéressant, c'est que pour vérifier donc ces modèles de Kripke, pour vérifier tous les cas sont corrects, il est très utile de vérifier des vérificateurs automatiques de preuve. Alors, donc si on regarde comment se justifient les produits dépendants dans le modèle simplicial des types qui vérifient la condition de Kahn, en fait, la justification est très indirecte. Elle n'utilise pas, donc ce n'est pas combinatoire. Elle utilise des résultats sur la structure de modèle au sens de Quillen des ensembles simpliciaux. Donc là, ça, c'est un exemple dans les notes de Thomas Streicher. Donc il vérifie, il justifie l'existence des produits dépendants en utilisant une propriété de la structure de modèle sur les ensembles simpliciaux, donc qui est la propriété de Wright proper de cette structure minimale. Et si on regarde de cette structure de Quillen sur les ensembles simpliciaux, et si on regarde la justification de cette notion-là, en fait, ce résultat lui-même est prouvé donc en utilisant une notion technique de fibration minimale et qui se construisent en utilisant l'action du choix. Donc là, non seulement c'est pire que d'utiliser est-ce qu'un élément est dégénéré ou pas, cette justification-là repose sur l'action du choix et la logique classique. Donc cette justification utilise que l'on a une structure de modèle de Quillen sur les ensembles simpliciaux, où les confibrations sont les monomorphismes, et les fibrations sont définies par cette condition de relèvement par rapport aux injections, à ces injections-là. Et donc, une fois qu'on a les cofibrations, les fibrations, donc on a On a, de manière unique, on a la notion d'équivalence faible et on peut vérifier, donc on a une structure de modèle de Quillen, mais comme je l'ai dit, donc la justification se fait dans une métathéorie classique qui utilise l'axiome du choix. Donc on montre classiquement que cette structure de modèle vérifie les propriétés suivantes, donc propriété de Frobenius qui correspond à l'existence des produits dépendants, la propriété d'existence, d'extension d'équivalence, donc qui est la propriété suivante, c'est que si on a une cofibration, donc un monomorphisme, et si on a une fibration au-dessus de gamma, et on a, donc ça c'est un monomorphisme, et si on considère une autre fibration au niveau θ et une équivalence de B dans ce produit fibré, alors on peut étendre, on peut trouver un B prime, B tilde et une équivalence qui étend cette équivalence-là. Donc intuitivement, ça c'est une équivalence partielle de codomaine A et on peut étendre cette équivalence partielle en une équivalence totale. Donc c'est la propriété d'extension, qui est une propriété purement de, qui peut se formuler en termes de modèle de structure de Quillen. Et finalement, la troisième propriété qui est utilisée, c'est la propriété d'extension de fibration le long d'une cofibration triviale. Donc si on a une cofibration triviale θ dans gamma, donc une cofibration qui a une équivalence, alors toute fibration sur θ peut être étendue en une fibration sur gamma. Donc ça correspond au fait que donc l'univers des types fibrants est lui-même fibrant. Donc à partir de ces propriétés-là, qui se montrent dans une métathéorie classique, on peut montrer qu'on obtient un modèle de l'univalence donc en utilisant cette définition-là. Donc l'approche que je vais présenter est duale. On commence par construire un modèle de l'univalence et on peut en déduire une structure de modèle de Quillen sur les ensembles simpliciaux. Donc pour les ensembles simpliciaux, ceci utilise encore une métathéorie classique, mais l'utilisation de la logique classique donc, est concentrée dans une preuve d'équivalence de deux définitions d'être une fibration. Et cette méthode que je vais présenter donc, permet plus généralement de construire de nouveaux modèles de l'univalence dans une métathéorie constructive. Et aussi, donc, il permet de construire des modèles, de structures de modèles de Quillen sur les préfaisseaux, sur des modèles de préfaisseaux, qui vérifient ces trois propriétés. Et donc, cette construction de modèle a de plus été formalisée donc, dans New Pearl et dans AGDA. Alors, voici donc, l'autre définition d'être une fibration de Kahn, donc, que je vais présenter donc, intuitivement. Donc, quand est-ce que A est une fibration de Kahn sur gamma. Donc cette propriété-là, maintenant, va être vue comme une propriété donc, d'extension de boîte ouverte. Donc si je considère un contexte quelconque θ et une partie de θ, donc donnée par une couche de θ dans φ, je peux me restreindre, je peux considérer la boîte ouverte intuitivement qui est définie par θ croix 1. Donc il va y avoir deux boîtes ouvertes correspondant aux deux points de 1. Donc il va être θ φ croix 1 union θ croix 0. Et la flèche correspondante en changeant 0 à 1. Donc je peux penser à cette restriction-là comme une boîte ouverte sur θ, et la condition va remplacer donc cette propriété d'extension par cette propriété d'extension-là qui dit que toute boîte ouverte sur θ peut être remplie intuitivement. Donc pourquoi je peux penser à ça comme une boîte ouverte? C'est que donc θ est une forme, peut être vue comme une forme géométrique, et comme partie, comme sous-partie de θ, je peux considérer donc par exemple les points, ce point-là et ce point-là. Donc la partie AB définit une partie de la ligne AB. Et en fait, donc, la boîte ouverte correspondant à ça est géométriquement représentée par cette forme-là. D'accord ? Et donc, ce que dit cette propriété d'extension, c'est que donc, si j'ai une boîte ouverte de cette forme-là dans A, alors je peux la remplir. Donc c'est ça l'intuition géométrique. Donc c'est une propriété de remplissage d'une boîte ouverte, et donc il y a la condition correspondante avec la boîte où je me donne cette boîte-là. Et donc je peux remplir cette boîte-là. Donc là, en fait, cette propriété de remplissage de boîte était en fait la première formulation de Kahn avant de formuler cette propriété d'extension. Il avait formulé cette propriété-là. Et donc aussi, on peut montrer, donc pour les ensembles simplicios, on peut montrer que cette condition est équivalente à une condition qui semble plus faible. C'est que si j'ai une boîte ouverte comme ça, en fait, je peux la fermer. Donc je peux uniquement construire cette ligne-là. Donc fermer une boîte, donc, c'est plus faible que remplir la boîte. Mais en fait, donc, en utilisant le fait que je suis sur la catégorie, donc la catégorie des ensembles simplicios, ces deux définitions-là sont équivalentes. Donc là, ce qu'on montre classiquement, c'est que ces deux définitions, ces deux propriétés d'extension sont en fait équivalentes pour les ensembles simplicios. Mais cette équivalence-là est seulement classique. Donc c'est en utilisant le tiers exclu. Alors, ceci est une propriété, mais en fait on peut extraire de manière surprenante. Donc c'est une propriété donc, pour tout état et pour toute flèche θ croix 1 dans gamma, pour tout psi, on a cette propriété d'extension. On peut extraire de cette propriété une structure. Et pour donc l'équivalence, ce que je dois dire d'abord, donc c'est l'équivalence entre ces deux définitions. Donc c'est un résultat clé, donc qui est dans tous les présentations donc modernes des ensembles simplicios. Il commence par montrer l'équivalence de ces deux définitions là. Alors pour montrer donc l'équivalence entre ces deux définitions, je vais regarder donc une propriété d'extension plus faible, qui est la propriété d'être injectif ou contractile. Donc, et je vais la considérer juste pour un type A. Donc c'est quoi être injectif? Donc là, c'est injectif, c'est une propriété d'extension. C'est que si j'ai un monomorphisme, comme ça, et si j'ai une flèche qui est définie, donc une flèche partielle, comme ça, alors je peux étendre cette flèche-là à θ. Donc ça, c'est aussi une propriété, donc être injectif, qui correspond en fait dans le modèle simplicial. C'est en fait la même chose que d'être contractile. Ça correspond à la propriété géométrique d'être contractile. Donc ça, c'est une propriété d'extension qui est similaire à cette propriété-là. Et en fait, de cette propriété, je peux extraire une structure. Et alors pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, je peux considérer le cas générique d'extension, qui est le cas suivant. C'est pour tout A, donc j'avais le type des objets partiaux sur A et la flèche d'injection eta. Donc si je considère l'identité de A comme cas particulier de cette propriété d'extension, j'obtiens en fait un inverse à gauche de la fonction eta. Donc cette fonction, c'est un inverse à gauche de eta. Maintenant c'est une structure qui j'ai pas à utiliser donc l'axiome du choix. C'est une existence, existence pour un objet donné. Donc j'introduis cet inverse là et maintenant j'ai une structure qui est une flèche en fait, d'extension qui va me permettre d'étendre tout objet partiel de A en un objet total. Donc c'est un cas particulier où j'ai une propriété. Donc a priori, j'ai l'impression que je dois avoir, j'utilise l'axiome du choix. Donc pour tout état, il existe une flèche comme ça. Mais en fait, en considérant le cas générique, j'obtiens une structure. Qui me permet d'étendre tout objet partiel en un objet total. Et en fait, une fois que j'ai cette structure-là, je peux l'utiliser donc comme une sorte d'algorithme, se donner un objet partiel pour A, c'est la même chose que se donner une flèche de θ dans A tilde. Et donc, je peux utiliser... cette flèche-là, je peux utiliser cette inverse à gauche pour construire l'extension que je veux pour tout état. Donc c'est un exemple donc, où je peux extraire d'une propriété une structure sans utiliser l'axiome du choix général. Et en fait, on peut faire la même chose de manière tout à fait similaire à cette implication-là. On peut montrer que cette propriété d'extension-là peut être transformé en une structure, donc en utilisant un cas générique. Donc là, c'est pour la propriété d'être contractile ou d'être injectif. Donc on a une propriété d'être contractile, qui est cette injective, qui est celle-là. Et en fait, donc on peut extraire de cette propriété une structure. Et de manière tout à fait similaire, donc la propriété de Kahn, cette propriété-là, est équivalente à une structure, donc qui est une structure de remplissage. Toute boîte ouverte de A se remplit par une opération, donc en considérant le cas générique de cette extension-là. Et de même, je peux définir donc un ensemble de structures, d'ensemble des opérations qui ferment une boîte ouverte de manière uniforme. Et donc je peux transformer cette propriété-là en une structure d'extension. Et donc cette propriété-là donc, correspond à un raffinement de la propriété de relèvement de chemin. Donc le cas particulier de relèvement des chemins, c'est le cas où psi et la partie vide correspond à la partie vide de θ. Donc ici, on se donne non seulement le chemin, mais aussi, on se donne non seulement une source du chemin, mais on donne aussi un relèvement partiel. Et ce qu'on demande, c'est de trouver un relèvement du chemin qui étend ce relèvement partiel et qui est de source ou de but donné. Donc ce raffinement, donc cette propriété d'extension, donc il serait en fait très intéressant de faire un travail historique, de trouver la source de cette propriété d'extension. Donc là, au moins une référence que j'ai trouvée, donc c'est un papier d'Eilenberg, où Eilenberg formule cette propriété d'extension sous cette forme suivante-là, donc dès 1939. Mais je suis sûr donc, que cette propriété apparaît déjà en topologie algébrique. Et donc, ceci correspond à une forme abstraite combinatoire, mais combinatoire entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ce n'est pas fait dans une métathéorie constructive de cette propriété qui était trouvée donc essentielle en topologie algébrique. Une fois qu'on a reformulé cette propriété-là comme une structure de remplissage ou de structure de fermeture de boîte. On peut donc maintenant regarder si on peut justifier les constructions de la théorie des types. Et en fait, donc en utilisant cette définition-là, de manière effective, on peut construire donc pour une structure de remplissage sur A, une structure de remplissage sur B, une structure de remplissage pour le produit dépendant et la somme dépendante. Et toutes les preuves maintenant sont effectives et tout à fait peuvent être vues comme des programmes. Donc en partant de la structure de remplissage, qui est vue comme un programme qui ferme une boîte ou qui remplit une boîte, on peut construire donc un programme pour le produit dépendant. Et donc maintenant, donc en particulier, on peut montrer la clôture par exponentielle, cette fois-là, en utilisant cette définition et pas cette définition. Tout est effectif et élémentaire. Donc élémentaire au sens où tout est décrit par des opérations et on programme ces opérations-là. Donc là aussi, on peut montrer ce qui correspond à cette propriété d'extension. Donc cette propriété d'extension est intéressante parce qu'elle correspond à donc une forme de l'univalence que j'avais formulée. Donc une manière possible de formuler l'univalence, c'est la manière suivante. Donc c'est que le type, pour un type donné, si je regarde le type des équivalences de domaine fixé, ce type-là est contractile. Donc en fait, cette propriété-là correspond à cette propriété d'extension des équivalences. Et ce que je dois faire donc, en termes de programmation, en fait, c'est d'étendre une flèche, donc ça correspond à ce que j'ai appelé extension d'une fonction partielle de but donné. Donc intuitivement, c'est la propriété suivante qui maintenant, donc ça c'est vrai pour le modèle de Kahn. Donc il y a une propriété plus faible qui correspond dans le modèle simplicial de Préfaisseau. On a ce type-là et en fait je vais de manière équivalente, donc je peux le formuler pour x dans A de codomaine fixé. Et si je regarde dans le modèle simplicial, je peux regarder ce type-là, et en fait ce type-là est injectif et contractile. Et donc ça correspond à une propriété d'extension des d'extension d'une fonction partielle de codomaine donné. Et ça correspond aussi, cette extension-là peut être faite de manière calculatoire, donc comme un programme. Donc toute fonction partielle de codomaine A a une extension totale. Donc si je me fixe un type A dans gamma, donc A est un type dans gamma, et si je prends donc une partie de gamma, et si dans le type, dans le contexte restreint, maintenant j'ai un type B, donc B intuitivement c'est un type partiel, et dans ce contexte-là j'ai une flèche de B dans la restriction de A, alors en fait je peux étendre le type B en un type total, et je peux étendre cette fonction d'une fonction totale de codomaine A. Donc c'est une propriété qui est, comme je l'ai dit, peut se programmer. Donc on peut construire de manière explicite cette extension-là. Et ensuite, on peut vérifier, donc c'est le lemme clé en fait pour vérifier le modèle d'univalence, c'est qu'on peut vérifier que si cette flèche, si B et A sont des vérifient cette condition de remplissage, et si cette flèche est une équivalence, alors l'extension que je construite de cette manière-là est aussi une équivalence. Donc on peut construire un programme qui correspond au fait que ce type-là est contractile. Donc la preuve est effective et peut être faite dans une métathéorie faible, donc sans utiliser l'action du choix et la logique classique. Donc pour résumer, donc on a deux définitions classiquement équivalentes d'être Friedrand. Donc la propriété, cette propriété de, telle qu'elle était formulée dans le papier de Kahn de 1958, et cette propriété de remplissage ou de fermeture des boîtes. Et en utilisant la deuxième définition, on peut montrer de manière constructive la clôture par ces opérations-là. Donc là, on peut se demander, est-ce que le modèle simplicial n'est pas constructif, puisque toutes les lois de la théorie des types peuvent être vérifiées à ce niveau-là. Et donc là, le problème, ça va être au niveau des univers. Donc si je définis l'univers des types Friedrand comme l'ensemble des éléments donc de type X qui sont Friedrand, qui vérifient cette propriété de remplissage, alors, pour montrer que le décodage d'un type est Friedrand, on doit utiliser cette définition et pas cette définition-là. Sinon, on n'arrive pas donc, à montrer de manière constructive que ce type UI bar est bien un type des codes de type Friedrand. Donc on obtient, donc c'est l'analyse de cette situation-là, pour construire l'univers des types Friedrand, on a besoin de cette définition-là. Donc la conclusion de cette analyse, c'est qu'on a besoin de ces deux définitions-là, mais que malheureusement, l'équivalence entre ces deux définitions ne peut se faire qu'en utilisant le tir exclu. Mais quand même, donc on peut suivre cet argument-là et concentrer donc, l'utilisation de la logique classique dans cette équivalence-là. Et ceci donne en fait une nouvelle manière de construire le modèle simplicial. Cette construction-là est plus simple en fait que la preuve usuelle de construction du modèle simplicial, puisqu'elle ne repose pas sur la structure de modèle de Quillen des ensembles simplicieux. Et en fait, on peut utiliser cette approche-là pour définir donc une nouvelle manière de définir la structure de modèle de Quillen sur les ensembles simpliciaux. Et en fait, donc on peut suivre le fait que la propriété de remplissage est équivalente à la propriété de fermeture donne en fait une preuve très simple que UI de bar, ce type-là, est fibrant. Donc la première preuve de Wovowski de ce fait-là utilisait la notion de fibration minimale. En utilisant ces idées, on peut ramener cette propriété-là à l'univalence, en fait. Donc le fait que ce type-là est contractile donne en fait une preuve directe que UI de bar vérifie cette propriété de remplissage des boîtes et donc que UI de bar est fibrant. Voilà. Donc on peut en fait déduire de ce modèle-là, de cette construction, une structure de modèle de Quillen sur les préfaisceaux les ensembles simpliciaux, où l'argument classique est restreint à cette équivalence-là. Alors en fait, donc si on analyse cet argument-là, on voit que le seul endroit où on a eu besoin de la logique classique, si on utilise cette approche-là, c'était pour construire les univers. Et que donc le problème pour la catégorie delta, c'est que ça se restreint que x fois 1 n'est pas représentable si x est représentable. Donc la catégorie delta n'est pas clos par produit. Donc si à la place on part d'une catégorie qui est close par produit, comme donc la catégorie de tous les ensembles ordonnés non vides, en fait on n'a plus ce problème et on peut suivre cette approche-là. On n'a plus de problème pour construire les univers et on peut suivre cette approche pour construire un modèle effectif de l'univalence. Et en fait, cette approche-là, dans les deux cas, on peut voir ce modèle de l'univalence comme un modèle interne du modèle des préfaisceaux. Donc on part du modèle de préfaisceaux, qui est un modèle de la théorie des types, et on se restreint à des types qui vérifient la condition de Kahn, et on obtient un nouveau modèle de la théorie des types. Donc pour vérifier la correction de ce modèle, donc il est pratique d'utiliser le langage de la théorie des types. Donc en fait, on peut présenter ce que j'ai formulé ici de manière purement interne au modèle des préfaisceaux. Donc ça, c'est fait, et c'est très pratique pour vérifier la correction du modèle. Donc en fait, c'est ce qui a été fait donc en suivant cette suggestion d'utiliser le langage interne de la théorie des préfaisceaux, donc Ian Norton et Andy Pitts, donc ont formalisé dans ACDA ce modèle-là. Donc ce modèle a été vérifié, la correction de ce modèle a été vérifiée formellement. Et la correction de la construction des univers a été aussi vérifiée dans ce papier. Et alors donc c'est très intéressant en fait de comparer la preuve. Donc on obtient une preuve de l'exponentielle ou des produits dépendants et qui est assez courte si on utilise ce langage interne. Et on peut comparer ces arguments internes à des preuves en termes de diagrammes. Et là, il y a un phénomène très intéressant. Il semble que la preuve en termes de diagramme soit beaucoup plus longue que la preuve interne. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut analyser un peu plus. Donc là, ce papier-là, en fait, compare la preuve interne d'existence de produits dépendants à une preuve en termes de diagramme. Et la preuve interne fait deux lignes, et la preuve en termes de diagramme fait plusieurs pages. Donc, pour conclure, donc on peut présenter ces modèles constructifs de l'univalence comme une extension de la théorie des types de Martin-Lhoff. Donc en fait, comme je l'ai dit, parce que tout est effectif et tout peut être pensé en termes de programme. Et en fait, donc c'est le cas. Donc ce modèle, par exemple, construit sur cette catégorie-là, correspond à des calculs et à une extension qui peut être pensée comme une extension nominale du lambda calcul. Donc c'est ce qui a été fait dans ce papier. Là, on a présenté une extension de la théorie des types qui peut être vue comme une extension où les calculs sont faits dans un lambda calcul nominal. Et on peut construire une implémentation d'un tel système. Et cette extension est maintenant disponible dans le système AGDA. On a pu montrer aussi, résoudre un problème qui était un problème ouvert. Dans le modèle simplicial, il était connu comment interpréter les types inductifs sans paramètres, comme le type des sphères. Mais, par exemple, pour le type de la suspension, il était ouvert, il n'était pas clair d'interpréter l'opération de suspension au niveau des univers. Donc, de voir la suspension comme une flèche de l'univers dans lui-même. Et en fait, donc, cette approche-là a permis de résoudre ce problème. Et en fait, s'applique non seulement pour des modèles constructifs, mais aussi pour le modèle simplicial. Donc, en utilisant ces idées, on a pu définir une interprétation de l'opération de suspension, plus généralement de type inductif comme le push-out, qui utilise des paramètres comme opération de l'univers dans lui-même. Conclusion, cette approche-là donne une nouvelle vision de l'égalité. C'est une vision homotopique, le modèle simplicial, qui n'est pas du tout en termes inductifs. Donc un problème avec cette approche de manière constructive, c'est qu'on n'obtient pas une interprétation vraiment de l'égalité telle qu'elle était formulée par Martin-Lhoff. Donc, comme je l'ai dit, Martin-Lhoff, en suivant Genson, a les règles d'introduction, les règles d'élimination, et la règle d'élimination doit être justifiée par une loi de calcul. Et en fait, ce modèle-là, tel que je l'ai présenté avec cette interprétation de l'égalité, du type des chemins, ne donne pas une justification de la loi de calcul. Elle donne une justification de la loi de calcul seulement comme une égalité propositionnelle. Ça, c'était un problème pour dire qu'on avait vraiment une interprétation de la théorie des types de Martin-Lhoff avec l'axiome d'univalence. Et de manière vraiment surprenante, ce problème a été résolu par Andrew Swan, qui a donné une nouvelle interprétation de l'égalité, qui n'est pas l'interprétation que j'ai montrée. Mais cette interprétation-là a été obtenue en utilisant des idées de structure de modèle de Quillen, donc des notions homotopiques. Il a pu voir comment modifier cette définition de l'égalité pour donner vraiment une égalité qui maintenant permet d'interpréter de manière constructive la loi de calcul de l'égalité. Et cette modification est suffisamment constructive pour être aussi représentée de manière comme un programme. Donc on a une situation vraiment particulière, c'est que la justification de Martin-Lhoff de l'égalité, en termes d'introduction, cette introduction-là, et la règle d'élimination, qui a priori est justifiée de manière inductive, qui dit que le type des égalités n'a qu'une preuve, qui est la réflexivité. Donc, de manière tout à fait surprenante, cette formulation de Martin-Lhoff peut être justifiée par une justification qui, en fait, justifie les règles de Martin-Lhoff elle-même. Mais pour ces règles-là, ce type-là, en général, ne contient pas, même dans un contexte, dans le contexte vide, dans le contexte clos. Donc, on peut avoir le type boule. On aura deux éléments distincts de ce type-là. Donc, on ne suit pas la justification inductive de Martin-Lhoff, mais les règles de Martin-Lhoff sont justifiées dans ce modèle-là. Donc, c'est une situation vraiment surprenante et qui demande en fait beaucoup plus d'analyse. Donc voilà, donc ça, j'ai ces travaux-là, donc c'est les travaux qui ont été faits dans les 10 dernières années. Donc on obtient une justification constructive du principe d'univalence, mais donc y a ce qui manque, donc c'est une analyse plus détaillée de cette justification, et en fait de relier cette justification à la justification de l'extensionnalité qu'elle a été faite par Robbing-Gong. Et ça, sinon, c'est des travaux qui sont en train de se faire. Mais pour le moment, donc c'est la seule justification constructive de l'univalence que l'on a repose sur ces idées-là. Et je voudrais terminer. Donc,
Merci. Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.